RFI.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour à tous. À quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde de football qui démarre cette semaine, regard géopolitique sur le ballon rond et tout ce qu'il véhicule. Si le sport est un moyen pour les politiques de faire rayonner les nations, regard sur cette édition 2018. On se souvient que le choix de la Russie pour organiser le Mondial 2018 avait suscité quelques controverses en décembre 2010. Sans doute est-ce encore plus le cas maintenant. Les sujets ne manquent pas. La Syrie, l'Ukraine, le gigantesque scandale de dopage des athlètes russes et dernières années, et il y a quelques mois la vague historique d'expulsions croisées de diplomates liées à l'empoisonnement de l'ex-espion Sergueï Skripal en Angleterre. Russie 2018 sera beaucoup plus que du foot. Sera-t-elle pour autant la Coupe du Monde la plus politique de l'histoire? Analyse avec nos invités. Pascal Boniface, directeur de l'IRIS et professeur à l'Institut d'études européennes de Paris 8, auteur pour ce qui nous intéresse aujourd'hui de deux ouvrages, L'Empire Foot, comment le ballon rond a conquis le monde chez Armand Collin, et Planète Football aux éditions Stenkis. Bonjour.
Bonjour.
Et Régis Janté, journaliste, correspondant de RFI dans le Caucase, basé à Tbilissi, capitale de la Géorgie, co-auteur avec Nicolas Jallot de Football, le ballon rond de Staline à Poutine, une arme politique aux éditions Alary. Bonjour.
Bonjour.
Le mondial de football place sous les yeux de l'opinion internationale un État dont la place est centrale sur la scène politique internationale, mais dont l'image est brouillée. Le Royaume-Uni et l'Islande ont annoncé qu'ils boycottaient diplomatiquement la Coupe du Monde de foot, laquelle se tient dans un pays qui est devenu un paria du sport international. Moscou est accusé de dopage institutionnalisé et est suspendu des compétitions internationales d'athlétisme. La Russie a également été privée des récents Jeux olympiques d'hiver en Corée du Sud. Dans ce contexte, la Russie peut-elle utiliser la Coupe du Monde à des fins de diplomatie et pour promouvoir une image positive, Pascal Boniface?
Oui, bien sûr, mais même en dehors de ce contexte, tout pays qui reçoit ces grands événements sportifs mondialisés qu'ils sont la Coupe du Monde de football et les Jeux Olympiques d'été, qui sont vraiment les événements phares au niveau mondial qui vont être suivis par des milliards de téléspectateurs. Donc, tout pays qui organise cela essaye d'en tirer un bénéfice diplomatique, de prestige, quelle que soit la nature de son régime, quelles que soient les difficultés ou facilités du moment. Et Poutine va faire ce que le président qui sera à la tête de la France en 2024 fera pour les Jeux Olympiques. C'est la tradition, on essaie de se mettre en valeur. En même temps, c'est aussi le danger, parce que qui attire les caméras, qui attire les lumières, peut également attirer les caméras et les lumières sur des aspects plus négatifs. Donc, quand on mord aux arbres, il faut quand même se tenir bien, effectivement. Et donc, il y a pour Poutine un enjeu à la fois national et international, et il sait qu'il a plusieurs défis dont on aura l'occasion de parler au cours de l'émission à relever pour sortir gagnant diplomatiquement plus que sportivement de cette épreuve.
On l'évoquera. Régis Janté.
Oui, absolument. Pour n'importe quel régime, pour une démocratie, c'est une manière de donner une image de son pays. Les Coupes du Monde de les dernières ont été suivies par plus de 2 milliards de personnes, donc c'est une vitrine extraordinaire. Peut-être que la spécificité pour la Russie, et ça date depuis très longtemps, parce que Poutine, pour bien des choses, est en fait un avatar du pouvoir russe, si je puis dire. C'est un pays qui est en permanence en recherche de reconnaissance de la part de l'Occident. C'est absolument fondamental et ça s'enracine dans la question identitaire russe. Sommes-nous des Européens? Sommes-nous plutôt des Asiates, etc. Avec un regard obsessionnel sur l'Occident. Que pense l'Occident de la Russie? Et donc, ce genre d'événement sportif, c'est aussi une manière de se placer, de se faire voir de l'Occident, de se faire bien voir de l'Occident, si je puis dire, avec des arrière-pensées géopolitiques, mais qu'ont tous les États, qui est de prendre sa place, d'être reconnu comme un État respectable, capable d'organiser ce genre d'événement planétaire, de donner une image de la modernité du pays. Je pense aux Jeux Olympiques de Sochi. Si vous regardez l'esthétique des stades, si vous regardez l'esthétique des cérémonies d'ouverture et de clôture, on voit qu'il y avait vraiment cette recherche de modernité pour se vendre cette image d'une Russie acceptable de ce point de vue-là.
Alors, est-ce qu'il n'est pas finalement question davantage d'affirmation de la puissance de la Russie plutôt que de vitrine d'une image positive, Pascal Boniface?
Oui, bien sûr. C'est aussi pour Poutine, il y a un enjeu, c'est de laver l'affront de 1980, les Jeux Olympiques d'été de Moscou, qui avaient été boycottés, non pas politiquement, mais sportivement, par de nombreuses délégations occidentales. Or là, même si les responsables politiques britanniques et islandais ne viendront pas, les équipes anglaise et islandaise viendront, parce que si Madame May avait tenté d'empêcher l'équipe anglaise de venir participer au mondial en Russie, elle aurait soulevé une révolte qui l'aurait emporté. Donc on voit que les temps ont changé, et donc pour Poutine, eh bien, la Russie va être au centre du monde, sur l'étendue de son pays, et c'est ça qui va compter. Et puis, il y a donc l'image qu'il donne à l'étranger et l'image qu'il donne aux Russes. C'est-à-dire qu'il va pouvoir flatter l'estime de soi des Russes en leur montrant et en leur prouvant que sous sa direction, sous son leadership, justement, le pays s'est relevé et qu'il n'y a plus les humiliations du passé, puisque Poutine a en grande partie basé sa légitimité et sa popularité auprès de l'opinion russe sur le fait qu'il a restauré l'image du pays par rapport aux années Yeltsin après lesquelles il avait pris le pouvoir. Et donc là, il fait même mieux que ne faisait l'Union soviétique, puisqu'il n'y aura pas de boycott sportif.
Alors, restauration de l'image, la question qui se pose est de savoir quelle Russie va apparaître. Les matchs vont se dérouler, je parle bien sûr sous votre contrôle, dans 11 villes, toutes situées dans la Russie européenne, ce qui n'empêche pas les distances de 2500 km entre certaines villes. Que vont révéler ces villes de la Russie d'aujourd'hui, Régis Janté?
Ça a été assez compliqué de comprendre effectivement pourquoi ces villes ont été choisies. C'est parfois très surprenant. Par exemple, on a des matchs qui vont se dérouler dans la ville de Saransk, en Mordovie, dont l'équipe de football joue en 3e division russe et qui habituellement accueille environ 3-4 000 spectateurs. Et là, on construit un stade de 45 000 places. Donc sans doute que derrière, c'est de la politique. Comme tous ces grands événements sportifs dans le monde entier, mais a fortiori lorsqu'on est, comme je le disais, dans cette quête de reconnaissance, de prendre sa place sur la scène internationale. Il s'agit d'inscrire dans la géographie de l'événement sportif, de raconter à travers ça son pays et sa géographie. Alors, on a plusieurs villes. Je parlais de Saransk, par exemple, ou bien de Kazan, la capitale de Tatarstan, qui sont sans doute une manière de montrer combien la Russie est un pays multiethnique. Kazan, c'est la capitale des Tatars. Saransk, enfin, la Mordovie, c'est une république multiethnique avec des Mordves et des Russes. Alors ça, c'est un aspect des choses. On a Kaliningrad. Là, on est beaucoup plus sur de la géopolitique lourde, si j'ose dire. C'est une manière de dire la Russie est ancrée dans l'Europe. Kaliningrad, c'est un endroit aujourd'hui où on déploie des armes nucléaires, etc. Donc on est dans le marquage géopolitique en quelque sorte. On a d'autres villes qui sont proches des conflits. Je ne sais pas si c'était intentionnel. Je pense à Krasnodar, on est dans le Caucase. Je pense à Rostov, on est aux portes du Donbass et de l'Ukraine. Je ne suis pas sûr que c'était intentionnel parce que aussi la Russie, c'est 11 fuseaux horaires et on ne pouvait pas se permettre de mettre des stades à Vladivostok. C'était pas imaginable. Puis on a d'autres villes qui sont plutôt représentantes de l'histoire soviétique, l'histoire industrielle. Je pense à Saratov ou Ekaterinbourg, par exemple. Donc voilà, c'est pour montrer un peu cette diversité de la Russie en jouant sur plusieurs tableaux différents.
Alors, vous le disiez, Pascal Boniface, c'est une Coupe du Monde qui représente des défis pour Vladimir Poutine. Est-ce qu'on peut imaginer que des manifestations, qu'en tout cas cet espace soit occupé, que l'opposition en Russie en profite pour manifester? Est-ce qu'on peut dire que c'est une Coupe du Monde à haut risque pour Vladimir Poutine, sur le plan intérieur?
Non, parce qu'il y aura peut-être des manifestations et certains y poussent, mais ceux qui voudraient mettre en cause l'organisation de la Coupe du Monde ou le bon déroulement de la Coupe du Monde se heurterait à l'opinion russe. Parce que les Russes veulent être au centre du monde, veulent recevoir le monde, et vouloir un petit peu gâcher la fête passerait pour anti-patriotique. Et donc, il n'y a pas beaucoup d'espace pour cela. Il y a bien sûr le défi du terrorisme, mais ceci est vrai pour toute compétition mondiale. C'était également le cas au Brésil, qui est bien sûr dans une configuration géopolitique très différente. Il y a le problème des hooligans, mais là, on peut penser que les messages ont été envoyés et qu'ils vont se tenir à carreau parce que la punition pourrait être sévère. En fait, il y a deux défis qui sont moins contrôlables pour Poutine. Le premier, ce sont d'éventuels cris racistes dans les stades, notamment si des équipes africaines jouent. On sait que de nombreux supporters, enfin entre guillemets, russes, ont souvent des cris de singe, des lancers de bananes contre des joueurs noirs ou métis. Et là, c'est un enjeu diplomatique majeur, parce que ça serait un échec pour Poutine s'il y a des preuves de racisme, alors qu'il cherche à se réimplanter en Afrique. Et le vrai défi, mais on en parlera sans doute tout à l'heure, c'est le niveau de son équipe nationale, qui n'est pas très performant.
Alors, on en parlera du niveau de l'équipe nationale russe. Régis Janté, un commentaire sur ce que vient de dire Pascal Boniface et la question de savoir si c'est une Coupe du Monde à haut risque sur le plan intérieur pour Vladimir Poutine.
Non, sur le plan intérieur, effectivement, je suis d'accord. Je pense pas que ce soit une Coupe du Monde à risque. Vous avez raison, les hooligans sont sous contrôle. Et autant que je sache, la plupart qui reçoivent le FSB, deux fois par semaine depuis quelques mois, sont partis en vacances en Turquie ou en Thaïlande, parce qu'en général, c'est pas la vie de la société, ce sont plutôt des gens qui ont un petit peu d'argent, c'est de la classe moyenne, ils ont assez d'argent pour se mettre hors de portée du FSB pendant cette période-là. Donc ça se passera très bien, j'en suis à peu près certain. La question du racisme, ça peut être effectivement une question, mais je pense aussi qu'on doit y veiller, on a dû repérer les gens qui étaient susceptibles de faire ce genre de choses.
On a surtout augmenté le nombre de caméras de surveillance dans les stades à des fins dissuasives, afin d'envoyer comme message, si vous vous comportez mal, on saura qui vous êtes et il y aura quelques problèmes pour vous à l'avenir.
Absolument, absolument.
Alors, sur la question des villes, donc les 11 villes dans lesquelles va se dérouler cette Coupe du Monde, Régis Janté l'évoquait, des constructions de stades de 45 000 personnes dans des villes où finalement le football jusqu'à présent ne rassemblait que 3 ou 4 000 personnes dans les stades. Donc une véritable transformation, Pascal Boniface, oui, du paysage de certaines villes et de...
Alors il y a un stade très cher, c'est celui de Saint-Pétersbourg, mais enfin là il y a un club performant et donc il pourra être utilisé. Il y a effectivement, mais c'était le cas au Brésil, c'était le cas en Afrique du Sud, il y a une sorte de volonté de pseudo-aménagement du territoire et on construit ce que l'on peut parfois qualifier d'éléphant blanc, des stades avec des surcapacités dont on ne sait pas s'ils seront réutilisés par la suite, mais comme vous l'avez dit Monsieur Janté, effectivement c'est une façon pour Poutine de montrer que la Russie dans sa diversité est là et que toutes les composantes sont représentées. Donc c'est une sorte d'aménagement stratégique du territoire de la part de Poutine. Effectivement, le vrai message aurait été d'organiser un match à Vladivostok, mais le décalage horaire fait fuir les équipes et ça aurait été à moins d'y envoyer les équipes immédiatement sur le chemin de l'équipe russe par la suite. Mais là, ça venait un peu entraver le bon déroulé de la compétition.
Alors, aménagement, oui, Régis Janté, vous souhaitez aller.
Je voulais juste dire que l'équipe de Vladivostok, par exemple, se bat toujours pour jouer en première ligue et les clubs de Moscou et de la partie occidentale de la Russie n'en veulent pas parce qu'ils ne veulent pas voyager à cette fuseau horaire, effectivement.
Alors, aménagement, on l'a vu avec les Jeux Olympiques de Sochi. Finalement, cette ville, après les Jeux Olympiques, s'est retrouvée avec une infrastructure hôtelière qui ne sert pas beaucoup.
Ah si, ça sert beaucoup. Ça sert beaucoup parce que d'une part, les Russes, du fait de la chute de la monnaie, peuvent moins partir à l'étranger en vacances qu'auparavant. Et donc, les stations sont pleines. Effectivement, alors ça a été très cher parce qu'il a fallu construire un aéroport, etc. Mais désormais, Sotchi, qui n'existait pas, est devenue une destination touristique nationale, prisée par les Russes, avec des infrastructures de qualité. Et donc, là-dessus, on peut bien sûr discuter du prix qui a été faramineux, pharaonesque. Mais en tous les cas, ça a créé quelque chose qui reste et qui est utilisé par les Russes.
Donc, destination touristique en devenir pour les 11 villes qui accueilleront la Coupe du Monde de football, Régis Janté?
Non, je crois que ça va être difficile d'emmener du monde à Saransk, même si Gérard Depardieu officiellement y vit, ça sera assez difficile. Donc là, ce sont des vraies décisions géopolitiques qui resteront.
La différence entre les Jeux Olympiques, même d'hiver, et la Coupe du Monde, c'est que les Jeux Olympiques, c'est sur une ville. Et donc, on fait des installations qui sont concentrées et qui vont être utilisées. Effectivement, pour ce qui est de la Coupe du Monde, qui est forcément répartie sur plusieurs villes, il y a presque à chaque fois, en tous les cas, ça a été le cas pour les deux dernières éditions, des stades qui, après, n'ont pas beaucoup d'utilité.
Alors, le football et la Russie, un grand pays qui a vu le football débarquer à la fin du 19e siècle, je parle sous votre contrôle, Régis Janté, Pascal Boniface, en 1870, très exactement, à Saint-Pétersbourg, à l'époque un sport élitiste. Comment le football a-t-il traversé l'histoire de ce pays, Régis Janté?
Longue histoire, il arrive effectivement, comme presque partout dans le monde, dans les bateaux des marins britanniques et des investisseurs britanniques, parce que la Russie, à cette époque, est en train dans un grand boom industriel, un boom d'urbanisation, de modernisation. Effectivement, au départ, ce sont seulement les Britanniques qui jouent, puis les aristocrates russes, puis la nouvelle classe émergente bourgeoise, et puis bientôt le peuple, ce qu'on appellera le dicky football, le football sauvage, où on joue dans les terrains proches des cimetières, le long des voies ferrées, ce que le pouvoir ne tolérait pas. Ce qui va caractériser cette histoire, c'est l'arrivée de la révolution bolchevique, 1917, avec une idéologie qui est très réticente à l'idée d'accepter le football, qui est un sport venu de chez les bourgeois, et ça ne convient pas. Les bolcheviques essaient de construire aussi un sport qui convient conviennent à leur idéologie, qui va s'appeler notamment la physkultur, la culture physique, une sorte d'un entraînement du corps qui soit en phase avec un esprit sain idéologiquement. Jusqu'à la fin des années 1930, on va essayer d'imposer cette version du sport. Il y a même des théoriciens bolcheviques qui essaient d'imaginer des matchs de football dont le vainqueur ne serait pas celui qui a marqué le plus de buts, parce que ça, c'est bourgeois, c'est la compétition, c'est pas bien, mais de manière la plus belle. Et là, on retrouve cette idée fondamentale que je pointais tout à l'heure, cette question de cette obsession russe pour l'Occident, d'être reconnu par l'Occident. Et en fait, Staline, et c'est notamment l'année 37 qui est très importante, lorsqu'on va accueillir en URSS une sélection basque, on est dans le cas de la guerre civile espagnole, donc des républicains viennent pour mobiliser l'Europe entière contre le fascisme, et Staline, à ce moment-là, qui veut parler à l'Occident, le fait sur le terrain diplomatique, va donc aller soutenir les républicains espagnols. Et sur le terrain du football, c'est le moment aussi où on va aller s'aboucher, aller parler avec les occidentaux, et on va changer complètement la méthode de jeu et on va jouer de manière bourgeoise. Et là, on a l'impression que la bataille a été perdue par les soviétiques, puisque finalement, pour battre les bourgeois, on va jouer comme les bourgeois.
Pascal Boniface.
Oui, après, il y a la tradition soviétique, parce qu'il faut voir aussi que les premiers contacts, notamment, il y a eu des contacts entre l'URSS et l'Espagne de Franco, parce que les clubs espagnols et les clubs de l'Est pouvaient jouer les uns contre les autres. Le sport russe était assez bon, l'équipe russe était très compétitive. Alors, plutôt pour les Jeux Olympiques, parce que seuls les amateurs à l'époque pouvaient participer aux Jeux Olympiques, et les amateurs étaient colonels dans l'armée, commissaires dans la police, étaient des amateurs marrons. Et au niveau professionnel, au niveau de la Coupe du Monde, l'Union soviétique avait de moins bons résultats. Mais ce qui a laminé le sport russe, c'est la décennie 90. Après la décomposition de l'Union soviétique, le sport russe, y compris le football, bien sûr, a été complètement laminé. Alors aujourd'hui, on voit des secteurs dans lesquels il s'est reconstruit, parfois de façon un peu abusive, comme l'athlétisme, où il y a des sanctions par rapport au dopage. Mais effectivement, le football russe est encore en reconstruction, et parce que reconstruire un football, ça prend plus de temps, et que dans les années 90 et 2000, les oligarques russes ont préféré investir à l'étranger qu'investir en Russie. C'était une façon pour eux d'avoir une sorte d'assurance capitale, de se faire bien voir dans le pays d'accueil et de mettre de l'argent de côté au cas où les choses se passeraient mal en Russie.
Alors ça, je pensais le développer dans la deuxième partie de l'émission, on anticipe, mais c'est l'occasion justement d'approfondir certains aspects. Reconstruction du football, on dit de cette Coupe du Monde qu'elle est le point culminant de la politique sportive mise en place par Vladimir Poutine en 2002. Ce sera donc important de voir les exploits de l'équipe russe, dont on dit que si elle passe le premier tour, ce sera déjà presque miraculeux, Régis Hanté, ça veut
presque
dire...
Suspect. Presque je plaisante. Le sport en général russe est en déshérent. Je crois que dans les années 90, 3500 entraîneurs ont quitté la Russie pour s'expatrier et 7000 athlètes. Le sport a été décimé, effectivement, et le modèle économique par les oligarques n'a pas fonctionné, puisqu'un oligarque, ça veut gagner de l'argent, et que finalement, le foot en Russie est pas très, on gagne pas beaucoup d'argent avec.
Et les oligarques ne croyaient pas dans les équipes russes non plus, c'est ça aussi.
Pas véritablement, effectivement, en tout cas. Et s'ils ont mis de l'argent à l'extérieur, c'est moins pour, comme le disait Pascal Boniface, pour l'amour du football que pour une stratégie, puisque le problème d'un oligarque russe, c'est d'avoir une fortune qui lui appartienne pleinement et qui soit pas menacée chaque matin. Matin par le procureur général de Russie, effectivement. Donc c'est un sport qui s'est effondré. Donc la Coupe du Monde, l'enjeu, c'est pas l'équipe russe, parce que personne ne se fait d'illusions. Et lorsqu'on va dans les stades en Russie, c'est assez... On voit les gens qui se tiennent la main. Là, je suis allé voir des matchs de Coupe d'Europe l'an dernier qui se tiennent la tête dans les mains, parce qu'ils sont assez désespérés par le jeu. Donc tout l'enjeu, c'est montrer que la Russie est capable d'organiser ce genre de compétition, et puis de présenter une image à cette occasion, effectivement.
Donc on est plus, finalement, sur la forme que sur le fond,
Pascal. Parce que s'il y avait cette humiliation d'une élimination au premier tour, pour l'instant, dans l'histoire de la Coupe du Monde, seule l'Afrique du Sud a été un pays organisateur dont l'équipe n'a pas passé le premier tour. Et donc, les Russes ne veulent, à mon avis, pas être mis dans ce bateau-là. Donc, ils ne se font pas d'illusions sur le fait d'aller très loin dans la compétition, mais rester à quai serait certainement quelque chose de très humiliant. Mais là-dessus, il n'y a pas tellement de contrôle. Ils ont un groupe qui est plutôt facile a priori, mais les groupes dits faciles a priori peuvent être des pièges tout à fait mortel pour des équipes. Donc ça, c'est quand même un enjeu important pour Poutine, sur lequel, et ça il n'aime pas beaucoup, sur lequel il n'a pas de contrôle, parce que il peut mobiliser, etc. Et effectivement, là, l'argent revient dans le championnat russe. Gazprom est un gros investisseur, et d'ailleurs, c'est Gazprom est le sponsor de la Champions League, investit beaucoup sur le club de Saint-Pétersbourg. Poutine avait demandé aux oligarques qui étaient partis à l'étranger de réinvestir un peu de leur argent dans les clubs russes, qu'a fait d'ailleurs Abramovich, propriétaire de Chelsea, dans le CSKA à Moscou.
Donc, ça, c'est une façon de s'acheter aussi paix avec le Kremlin. Je vous propose qu'on poursuive dans la deuxième partie de l'émission Géopolitique. Nous retrouvons nos invités Pascal Boniface et Régis Jeantet dans...
Géopolitique, Marie-France Chatin.
À quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde de football, regard géopolitique sur le ballon rond et tout ce qu'il véhicule, nous retrouvons nos invités Pascal Boniface, directeur de l'IRIS et professeur à l'Institut d'études européennes de Paris 8, auteur pour ceux qui nous intéressent aujourd'hui de deux ouvrages, L'Empire Foot, comment le ballon rond a conquis le monde, chez Armand Collin, et Planète Football, aux éditions Stenkis, et Régis Jeantet, journaliste, correspondant de RFI dans le Caucase, il est basé à Tbilissi, capitale de la Géorgie, Régis Jeantet qui est co-auteur avec Nicolas Jallot de Football, le ballon rond de Staline à Poutine, une arme politique, aux éditions Alary. Alors on a quitté la première partie de l'émission en évoquant les défis pour l'équipe russe de football de passer le premier tour. La question qui se pose effectivement est de savoir si la Russie peut atteindre le deuxième tour. L'argent dans le football en Russie, Pascal Boniface, on évoquait ces oligarques russes qui ont beaucoup investi dans des clubs prestigieux à l'étranger et en l'occurrence particulièrement au Royaume-Uni. Vous citiez le nom d'Abramovich avec le Chelsea. Il y a aussi M. Ousmanov, Arsenal, et M. Ribolovlev, alors qu'il lui...
Monaco.
Plus à Monaco. Voilà. Comment comprendre ce choix des oligarques russes de privilégier les équipes à l'étranger? Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup à attendre de l'équipe russe?
Non, alors pour Ribolovlev, c'est simplement une sorte de sauve-conduit. Il cherche à avoir la nationalité monégasque. C'est une garantie, une protection, c'est une super... assurance tout risque, et pour les autres aussi, il y a à la fois une sorte de gentrification, regardez, je me distingue des autres oligarques, je n'ai pas de danseuse, mais j'ai un club de football, ce qui coûte au moins aussi cher, donc j'appartiens à la classe supérieure, et une façon aussi de pouvoir s'établir à l'étranger, ce qui fait qu'en cas de, quand on a une fortune acquise de façon bien souvent illégitime, on cherche à la protéger s'il y avait un renversement de pouvoir à Moscou, donc c'est une sorte d'assurance tout risque. Mais Poutine, dont le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a une sorte de patriotisme très fort, a demandé à tous ces gens-là, s'ils veulent continuer à avoir des bonnes relations avec le pouvoir russe, de réinvestir un petit peu, de même qu'il a demandé généralement aux oligarques qui avaient expatrié leur fortune de réinvestir un peu en Russie, il le fait également dans le domaine sportif, parce que Poutine est lui-même un pratiquant de sport
pas de
football, mais en tous les cas, ceinture de judo, il se met en scène corporellement très souvent, et puis le sport c'est aussi un enjeu de santé publique en Russie. L'espérance de vie est faible pour un pays industrialisé, on sait que l'alcoolisme est un problème majeur en Russie, et donc comme dans certains autres pays, réintroduire le sport, bien sûr au sommet, mais pour que ça ait un impact sur la base, pour que les gens reviennent au sport, afin d'améliorer la question de santé publique. Donc il y a ces deux aspects. Il y a à la fois, en haut de la pyramide, briller aux yeux du monde, et en la base de la pyramide, réintroduire des principes de santé publique par la pratique sportive pour la population russe.
Alors, on l'a dit, Régis Jeantet, cette Coupe du Monde est le point culminant de la politique sportive mise en place par Vladimir Poutine en 2002. Le football en Russie, c'est un sport que dans l'histoire, les hommes du Kremlin ont rarement aimé. C'est le cas aussi de Poutine.
En tout cas, c'est pas un amateur de football, comme vous le disiez. Il pratique le hockey, il pratique le judo, il pratique les sports, etc. Mais il a rien contre le football. Là, c'est la grande différence avec l'époque soviétique où il y avait idéologiquement une barrière, un obstacle, comme je le disais, qui a été levé dans les années 30 pour des raisons essentiellement, pas seulement, mais de politique étrangère. Pour Poutine, cette dimension-là n'existe pas. Le football est un peu laissé à sa propre vie dans la société russe depuis les années 90. coulisses, à vrai dire. Là où je vois que le Kremlin s'intéresse particulièrement pour les questions intérieures, ça sera par exemple pour certaines parties, on va dire marginales, en tout cas certains groupes de la société russe, qui peuvent être par exemple le nord du Caucase, où là il y a, semble-t-il, une politique pour que, en gros, on draine la jeunesse qui a tendance à aller vers les mosquées salafistes. Je pense au Caucase du Nord, le Daghestan, la Tchétchénie, où on a monté des clubs importants, on a mis de l'argent pour essayer de drainer cette jeunesse vers le stade, parce qu'il y a beaucoup de chômage, beaucoup de problèmes sociaux, donc ça c'est quelque chose d'important. Et puis l'autre dimension sont effectivement les hooligans, où là on a des groupes qui sont susceptibles de déborder le Kremlin sur sa droite, parce que dans la tradition du hooliganisme, on a quand même toujours une défiance vis-à-vis du pouvoir, je crois que c'est assez universel, et c'est vrai en Russie aussi, donc on essaie de les prendre sous contrôle. Je suis allé étudier ça par exemple au Zénith Saint-Pétersbourg, où Gazprom a mis en place une politique d'abonnement très peu chère, avec une sorte de contrat avec la tribune des ultras. Vous pouvez venir à tous les matchs pour 100€ dans l'année, mais la condition c'est que vous vous teniez à carreau, et ce qui fait grincer beaucoup de dents d'ailleurs dans ces groupes-là, puisque certains disent on a perdu notre âme, on est complètement racheté par Gazprom et le pouvoir.
Alors, je voudrais revenir à la question du football comme indicateur d'alerte de la bonne santé des États. Vous l'avez dit, Pascal Boniface, le football en Russie est en reconstruction. Tout de même, cette politique sportive mise en place par Vladimir Poutine en 2002, ça fait déjà 16 ans puisqu'on est en 2018. Il faut tant de temps pour mettre sur pied des équipes performantes et finalement...
Oui, parce que le football, c'est un sport d'équipe avec de multiples combinaisons, et c'est plus rapide de fabriquer un bon athlète, un champion exceptionnel, qu'une équipe exceptionnelle. Parce que il y a de multiples choses. On a l'exemple chinois. Xi Jinping est très fâché du mauvais état de son équipe, mais il n'a pas promis de gagner la Coupe du Monde en 2026 ni en 2030. Il veut l'organiser en 2030 et la gagner en 2050. Donc on voit que le football, c'est le temps long. Et d'ailleurs, on peut à peu près parier, on verra si je me suis trompé ou pas, et je prends à témoin vos auditeurs, que probablement le vainqueur de cette édition sera un pays qui l'a déjà gagné.
Ça se joue sur un éventail de 5 pays à peu près.
7-8 pays, là il y en a 5-6. Oui. Bon, on cite toujours Brésil, Argentine en Amérique du Sud, France, Allemagne, Espagne, Angleterre, je crois pas trop cette année, France, Espagne, Allemagne, donc c'est quand même ces 5 pays-là qui sont les pays majeurs du football, qui sont même les équipes africaines qui progressent ont encore du mal à franchir le palier des demi-finales. Donc on voit que c'est vraiment très très long. Il y a une multipolarisation pour l'organisation des compétitions. La Coupe du Monde va en Russie, elle n'y était jamais allée. Elle est allée en Afrique. Peut-être que le Maroc l'obtiendra contre les États-Unis pour 2026. Elle est allée en Asie. Mais pour ce qui est des vainqueurs des compétitions, ça se partage encore entre quelques pays européens et quelques pays sud-américains.
Qui ont une recette particulière ?
L'ancienneté. C'est vraiment l'ancienneté, une tradition longue, un bassin, alors pas pour l'Uruguay bien sûr, mais disons un bassin de population important, une pratique ancienne, des habitudes, des traditions. Effectivement, il n'y a pas de génération spontanée pour les équipes de football.
Alors, pas de génération spontanée, Régis Janté, on peut donc penser que cette organisation de la Coupe du Monde de football en Russie cette année, avec des matchs, on l'a dit, qui se déroulent dans 11 villes de la partie européenne de la Russie, avec construction de grands stades, etc. On peut imaginer que cette Coupe du Monde serve de marchepied pour une équipe russe plus performante dans les années à venir ?
J'ai l'impression que l'enjeu de la Coupe elle-même est beaucoup plus international, avec sa dimension nationale, mais qu'elle n'est pas véritablement sur le football lui-même. En revanche, il y a un travail de fond, on en a parlé, les oligarques ont beaucoup investi, parfois à la demande du Kremlin, ou en tout cas un encouragement tacite, une bonne entente. On a vu que ça ne marchait pas, M. Poutine apparemment l'a compris. Et on voit qu'aujourd'hui, les clubs misent sur la formation. Le Zénith a une énorme académie, on parle d'académie.
Le Zénith
Le Zénith de Saint-Pétersbourg. Je suis allé à Maratchkala, au Daghestan, on mise aussi beaucoup sur cette académie. Et puis il y a un club qu'il faudra peut-être suivre pour les amateurs de football, mais aussi pour comprendre où va la Russie, qui est celui du FC Krasnodar, où là on a précisément un homme d'affaires, je ne dis pas oligarque, qui n'est pas dans une dimension où je gagne de l'argent tout de suite. C'est ce qui fait par exemple que Kerimov, l'oligarque qui avait investi à Maratchkala, a au bout de 5-6 ans a abandonné parce qu'il n'avait pas remporté de compétition et qu'il ne comprenait pas pourquoi ça ne marchait
après
pas.
Après avoir dépensé des milliards.
Hein. Après avoir dépensé énormément, effectivement. Alors que au FC Krasnodar, on a quelqu'un qui est sur un projet long, un vrai projet politique économico-sportifs, avec un centre de formation, en se disant peut-être qu'il pourra revendre des joueurs et donc générer aussi de l'argent pour le club, pour en former d'autres. Et c'est un club qui a terminé quatrième, je crois, cette année, enfin qui fonctionne bien. Et là, on sent qu'il y a peut-être un modèle économique sportif qui est en train de se dessiner. Mais personne ne peut dire si c'est l'avenir du football russe.
La Chine, Pascal Boniface, vous en disiez quelques mots. On sait que Pékin veut exister sur la scène footballistique. Xi Jinping, le président chinois, veut faire de la Chine une nation forte du football. L'objectif, c'est accueillir une Coupe du Monde masculine pour commencer en 2030. La Chine a aujourd'hui rejoint, je parle sous votre contrôle, les 5 pays les plus actifs dans le domaine des transferts. C'est déjà quelque chose?
Oui, il est reparti en Argentine, mais le joueur le plus payé au monde était en Chine, Carlos Tevez. Et donc, il est reparti. La politique chinoise, le football féminin est très développé en Chine. Et là, le palmarès de l'équipe masculine est pathétique. Le palmarès de l'équipe féminine est tout à fait honorable. Et alors, effectivement, la Chine veut faire par les deux côtés de la pyramide, bas et haut, transfert massif et super, on payait des joueurs, non pas en fin de carrière, mais au fait de leur carrière. Parce que pendant très longtemps, un nouveau pays riche prenait des joueurs qui avaient 34-35 ans, qui venaient en pré-retraite dans le compétition nationale. Là, ils ont pris plutôt des joueurs qui ont en dessous de 30 ans, donc qui sont au fait de leur carrière, qui les payent très cher, même si Xi Jinping a mis un peu le holà sur les transferts pour limiter un peu les dépenses, et aussi une multiplication des académies, création des écoles de football, 25 000 environ, pour développer une masse que normalement, sur le nombre d'habitants, on devrait pouvoir trouver de quoi faire une équipe compétitive. Pour Xi Jinping, on peut pas être la première puissance mondiale et être à l'arrière-plan du sport universel, surtout si on est doublé par le Japon et la Corée du Sud, mais par le Japon, c'est beaucoup plus embêtant.
C'est très agaçant sur le plan géopolitique.
Voilà. Et donc, la Chine n'a participé qu'à une seule Coupe du Monde, l'équipe masculine, en 2002. Elle a perdu tous ses matchs. Elle a pu participer parce que comme la Corée du Sud et le Japon étaient co-organisateurs, et qu'ils sont qualifiés d'office, il y avait plus d'espace pour se qualifier. Là, ils ne sont pas en Chine, ils n'étaient pas au Brésil, ils n'étaient pas en Afrique du Sud, ils n'étaient pas en Allemagne. L'objectif d'être au Qatar, etc. Bon, 2026 sera plus facile parce que là, il y aura 48 équipes, l'échelle sera plus longue. Et donc, le but, c'est l'organiser en 2030 et la gagner avant 2050.
Alors, quelques mots sur l'Inde, puisqu'on parle de l'importance du football, et on y reviendra sur l'universalité de ce sport, mais l'Inde est extrêmement discrète sur cette question du football. Elle est même pratiquement absente de la scène sportive internationale, et manque de résultats au grand rendez-vous sportif. Quelles en sont les raisons, Pascal Boniface?
Alors, à part le cricket, l'Inde, c'est pathétique, hein, et pour les Chinois, ça c'est assez satisfaisant de voir qu'ils doublent l'Inde. Et pour les responsables indiens, ça va devenir préoccupant d'être distancé ainsi par la Chine. C'est culturel. On peut penser que même si le système de caste est officiellement aboli, il pèse encore dans les esprits. Alors, pour l'Inde, il y a un problème spécifique par rapport au cuir, par rapport à la vache. Et donc, des fois, jouer sans chaussures n'est pas très compétitif. Le contact avec le ballon aussi posait problème. Mais surtout, en plus, c'est que le fait que la caste vous assigne une place au début de votre vie et que vous ne devez pas en bouger, c'est contraire à l'esprit sportif. Parce que le sport, c'est la compétition, c'est donc le dépassement de soi. Et c'est donc accepter et vouloir renverser les hiérarchies. Le sport est quand même essentiellement démocratique puisque les réseaux, le piston ne comptent pas beaucoup. Votre père peut être milliardaire. C'est pas ça qui vous fait faire un dribble plus efficace ou une parade meilleure si vous êtes gardien. Et cette sorte de passivité indienne par rapport à la place que l'on a à la naissance explique en grande partie le bilan dramatique de l'Inde aux Jeux Olympiques, parce que par rapport au bassin de population, c'est absolument dramatique, et l'absence de résultats en sport, même si depuis quelques années, l'Inde essaye, elle se mondialise également, l'Inde essaye d'introduire un championnat professionnel qui se déroule sur une très courte période, qui prend des joueurs plutôt en retraite, même pas en pré-retraite, mais vraiment en retraite. Mais voilà, les Indiens commencent à se dire qu'il n'est pas normal qu'ils soient aussi mauvais que cela et que pour l'image, ce n'est pas très bon.
Alors, je rebondis, Régis Janté, sur ce que vient de dire Pascal Boniface, évoquant ces aspects d'ascension sociale à travers le football. Il y a aussi intégration des régions. Un pays immense comme la Russie, le football peut permettre justement aux uns et aux autres de se connaître davantage. Est-ce que vous sentez cela en Russie aujourd'hui?
À l'intérieur de la Russie?
Oui.
Il y a une géopolitique intérieure, effectivement. Je pense à la Tchétchénie, par exemple, république rebelle du Caucase, qui, rien qu'au XXe siècle, à la fin du XXe siècle, a connu deux guerres, après la chute de l'URSS, d'indépendance. Et il y a toute une politique, effectivement, pour essayer de réintégrer cette république dans la Fédération de Russie et de le faire aussi de manière symbolique. Si tous les dimanches, l'Armat Grozny, le porte-drapeau de la Tchétchénie, va jouer à Moscou, à Saint-Pétersbourg, à Saratov, etc., c'est une manière de l'inscrire dans la géographie du pays, comme ça fait naturellement. Bien sûr, si vous jouez contre Saratov le dimanche, c'est que vous êtes russe, il n'y a pas de question, il n'y a pas de séparatisme. Donc ça, c'est très important, d'où les moyens très importants développés par Ramzan Kadyrov, le chef de la Tchétchénie, qui au départ, lui aussi, a acheté quelques joueurs très connus, mais qui passaient plus de temps en discothèque que sur le terrain de football, et lui aussi a monté son académie et essaie effectivement d'avoir une équipe qui tienne son rang dans le championnat russe et éventuellement qui aille défendre les couleurs de la Russie sur la scène européenne.
Alors l'argent utile dans le football, c'est une évidence. Est-ce que pour autant l'argent peut tuer le football, Pascal Boniface?
Ce qui peut tuer le football, c'est la triche. C'est donc, et si l'argent permet de tricher ou rend nécessaire de tricher, l'argent tuera le football. Alors bien sûr, il y a beaucoup plus d'argent dans le football qu'auparavant. Et certaines personnes ont toujours trouvé anormal que des footballeurs soient payés pour taper dans un ballon. On ne dit pas ça pour les golfeurs, on ne dit pas ça pour les pilotes automobiles, et on ne dit surtout pas ça pour les artistes de cinéma qui sont bien plus payés que les footballeurs. Ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, les footballeurs, comme Messi, comme Cristiano Ronaldo, comme Neymar, sont simplement des vedettes mondiales. Et donc, elles sont payées comme des vedettes mondiales. Personne ne va protester contre le salaire de Georges Clooney, qui est une vedette mondiale. Tout le monde râle contre le salaire de Neymar, qui est une vedette mondiale. Donc, on voit qu'il y a un deux poids, deux mesures par rapport à un sport populaire, toujours illégitime dans certaines élites, avec un peu une sorte de mépris social qui vient se greffer là-dessus. Et donc, est-ce qu'il peut tuer le football? Pour l'instant, non, parce que personne n'est obligé de payer 100 euros pour avoir un maillot floqué au nom de Neymar. Personne n'est obligé de s'abonner à plusieurs chaînes pour voir tous les matchs. Les gens le font volontairement. Ce qui pourrait tuer le football, c'est si les résultats des compétitions étaient faussés. Mmh. Et donc, le danger principal, c'est sur les paris truqués. Mais les paris truqués sont plus un danger sur les matchs de ligue inférieure que sur les grands matchs. On peut pas acheter le Real de Madrid, c'est trop cher, même pour truquer la finale de la Ligue des Champions. Ça amène, bien sûr, une concentration des richesses. Aujourd'hui, des clubs comme l'Étoile Rouge de Belgrade ou Bucarest ne pourraient plus gagner la Champions League. Seuls quelques pays qui ont une forte population, donc des droits télé élevés, parce que l'argent vient surtout des droits télé. Et donc, on voit pourquoi la Champions League est réservée aujourd'hui Italie, Allemagne, Espagne, Angleterre, c'est que c'est là où il y a les plus forts droits télé. Mais en même temps, ce n'est pas vrai pour les équipes nationales. Parce que pour les équipes nationales, le pays le plus riche du monde, les États-Unis, ne sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde. Et le deuxième pays le plus riche du monde, la Chine, n'est pas qualifié pour la Coupe du Monde. Et des grands PIB, comme l'Inde notamment, ne sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde. Donc les équipes nationales préservent l'intégrité et l'équité économique du sport.
Alors, quelques mots sur la Russie, j'en reviens avec vous, Régis Janté. On le disait, il n'y a pas de joueurs russes de classe internationale. Est-ce qu'il y a tout de même des vedettes que l'on voit monter? Et finalement, en Russie, quels sont les grands clubs? Juste pour avoir un petit peu ce...
On voit très peu de vedettes émerger, c'est un vrai problème. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir qu'il y a deux ou trois joueurs, je crois, dans la sélection russe qui ne sont pas russes à l'origine et qui ont été naturalisés. On retrouve les mêmes choses qu'on peut trouver en Occident. Alors que ça va complètement à l'encontre, semble-t-il, du discours, de l'idéologie du Kremlin d'aujourd'hui. Comme quoi, c'est important d'avoir une sélection. Donc on a un Brésilien, un Portugais, je crois, enfin d'origine, et qui sont devenus russes, qui ont le passeport russe aujourd'hui, quoi. Pour les équipes, on sent que Gazprom, étant un peu le bras armé du Kremlin sur la scène géopolitique, qui est sponsor de la ville natale de Monsieur Poutine, ça a probablement un impact, met beaucoup d'argent. Ils ont recruté 5 internationaux argentins la saison passée, par exemple. Donc on sent qu'il y a une volonté de mettre quelques moyens. Ils ont deux ou trois coupes de la Ligue Europa ont été remportées par des clubs russes ces dernières années. Donc il y a un effort, effectivement, pour apparaître sur la scène internationale.
Alors, question sans que ce soit un pari absolu, ou en tout cas monétaire, la Russie, on le souhaite, vous l'avez dit, de passer le premier tour, est-ce qu'elle peut dépasser le deuxième tour? Et est-ce qu'elle dépassera le deuxième tour? Pascal Boniface et Régis Janté, pour terminer cette émission.
Bah après, sur les matchs qualificatifs, quand la qualification se joue sur un match, toutes les surprises sont possibles. Et on l'a vu, et c'est ça qui fait le sel du football, c'est que le petit ou celui qui n'est pas le favori peut gagner contre le favori. Et donc, finalement, ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours des surprises.
Donc vous ne donnez pas de réponse?
Non, parce que je ne fais jamais de pronostic sur le football.
Régis Janté.
Moi, je vais en faire. Déjà, si la Russie passe au second tour, ça sera déjà plutôt un exploit, même si le tirage a été plutôt clément, effectivement, pour la Russie. Deuxième tour, je crois vraiment pas. Et on revient à ce que vous disiez, c'est qu'effectivement, les sélections nationales, elles jouent véritablement avec leur potentiel et que là, il n'y a pas moyen de faire de miracle, je crois.
C'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Pascal Boniface, directeur de l'IRIS et professeur à l'Institut d'études européennes de Paris 8, auteur, pour ce qui nous intéressait aujourd'hui, de deux ouvrages, L'Empire foot, comment le Ballon rond a conquis le monde, chez Armand Collin, et Planète Football aux éditions Stenkis, et Régis Janté, journaliste correspondant de RFI dans le Caucase, co-auteur avec Nicolas Jallot de Football, le ballon rond de Staline à Poutine, une arme politique aux éditions Alary. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Marjorie Bertin et Nathalie Laporte. À samedi prochain.